France Culture.
Toute la semaine, Guillaume, passionnant.
Et à 9h sur France Culture.
Alors nous allons croiser durant toute la semaine Camille Flammarion, Alain Decaux, bien sûr, Augustine Fouillet et aujourd'hui Émilie Duchâtelet. La science à la vitesse des lumières. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Émilie Duchâtelet, la science à la vitesse des lumières, vulgarisée, vulgarisateur, vulgarisatrice sont des mots du 19e siècle. D'ailleurs, vulgarisé n'entre dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1878. Il désigne la volonté de mettre à la portée de toutes les intelligences des notions de science et d'art. Alors, même si le mot n'existe pas encore, la démarche est déjà présente. Mais avant de mettre la science à la portée de toutes et de tous, il s'agit d'œuvrer pour que le savoir quitte le petit monde des scientifiques.
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde de petits personnages, de vos claquemurets aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole des poux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires, à de plus hauts objets élevez vos désirs. Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments.
France Culture, le cours de l'histoire.
Les femmes savantes de Molière. En 1672, ici c'est une adaptation radiophonique de 1964, nous allons réfléchir aujourd'hui à ce que ça signifie déjà vulgariser. Est-ce que c'est pertinent de dire vulgariser avant ce 19e siècle qui met en avant la vulgarisation comme jamais? Anne Liseret, bonjour.
Bonjour.
Anne Liseret, vous êtes professeure de philosophie des sciences à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de l'âge classique et des Lumières. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est ce dont nous allons parler. Et Susanna Seguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en littérature française à l'université de Montpellier, Paul Valéry. Nous entendions ici un extrait des Femmes savantes de Molière, 1672. On est un peu avant le 18e siècle, bien sûr. C'est quoi le rôle des femmes liées à la science? On l'entend bien. Ici, Molière se moque, ou en tout cas, il reflète les moqueries de la société envers les femmes qui s'intéressent au savoir. On peut le dire ainsi, Susanna Seguin?
Oui, absolument. On se moque des femmes, on se moque de tous ceux qui s'intéressent aux sciences parce que la science appartient à un petit monde d'érudits qui n'intéresse pas forcément la bonne société, l'aristocratie et encore moins la cour. À la fin du XVIIe siècle, nous savons que, d'après des témoignages, il était bon d'être ignorant par bienséance. Et donc, s'intéresser à la science était considéré comme une frivolité complètement innécessaire pour les gens du bon monde.
Susanna Seguin, vous êtes en train de nous dire que ce ne sont pas que les femmes qui peuvent être moquées parce qu'elles s'intéressent à la science. Vous êtes d'accord, Anne Liseret? C'est passionnant ça, parce qu'on se dit l'homme a toujours été passionné des sciences tandis que les femmes s'occupaient d'autres choses. Non, en fait, c'est tous ceux qui s'occupaient des sciences qui est un peu ridicule.
Tout dépend ce qu'on appelle science, puisque si la philosophie fait partie des sciences, c'est pourtant une discipline valorisée, considérée comme sérieuse. Donc la question est aussi celle de savoir si la science s'émancipe progressivement de la philosophie, à quelles conditions et comment. Enfin, est-ce que et alors pour répondre à votre question sur les femmes savantes, il va toujours y avoir cette ambiguïté. Lorsqu'une femme veut faire de la science, est-ce qu'elle peut toujours entrer dans cette catégorie moquée de femmes savantes, ou est-ce qu'elle va pouvoir obtenir ses galons de sérieux de savante à part entière, de savante philosophe? C'est pour moi une manière de caractériser Émilie Duchâtelet que de dire que c'est une savante philosophe. Ça neutralise le soupçon de la femme savante.
Mais tout de suite, vous mettez au centre de la réflexion ce qui est peut-être le plus important. C'est quoi une science? Et que la philosophie se mêle des sciences. On connaît bien ces figures du XVIIe siècle, qu'il s'agisse de Pascal, de Descartes. On ne sait jamais comment les présenter, philosophe ou scientifique. Alors on dit un peu les deux. Mais parce que il n'y a pas encore une autonomisation du champ scientifique à ce moment-là, philosophie, science, tout ça, ça se mélange.
Absolument, cela fait partie de ce qu'on appelle les belles lettres. Et si vous regardez la définition du mot littérature dans le Furtière, dictionnaire de référence du XVIIe siècle, cela inclut la géométrie, par exemple. Donc l'indépendance des disciplines telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existe pas à leur époque.
Nous parlons d'Émilie du Châtelet aujourd'hui. Qui est-elle? Comment on peut la présenter, Anne Liseré?
Émilie du Châtelet, c'est une femme philosophe qui s'intéresse à différentes sciences et qui élabore, je crois, une épistémologie très originale, très inventive, mais qui, à partir du 19e siècle, à partir du moment où on met en ordre le savoir, où on choisit quelles sont les grandes figures scientifiques et philosophiques, sort des radars, si je puis dire, c'est-à-dire n'entre pas dans les catégories historiographiques qui permettent de lui donner une place. Donc c'est la raison pour laquelle elle est éclipsée, alors même qu'à son époque, elle est connue, reconnue, moquée bien sûr, mais pas seulement.
Susanna Seguin, on peut rajouter dans l'ombre de quelqu'un aussi, dès qu'il s'agit d'Émilie du Châtelet, il y a une figure qui prend le dessus et qui fait qu'elle a été en grande partie invisibilisée, c'est la figure de Voltaire qui est à ses côtés.
Absolument. Quand on regarde dans la plupart des manuels d'histoire littéraire ou d'histoire des sciences, quand Émilie du Châtelet trouve quelques lignes, jusqu'à une date récente, où sa figure a été réhabilitée, elle apparaît en tant que compagne de Voltaire. Mais rien d'autre que cela, une femme qui aurait été initiée presque à la science par Voltaire, alors que c'est exactement le contraire qui se produit, c'est elle qui lui explique Newton en réalité.
C'est bon ça, c'est bon de le rappeler. Anne Liseré, Émilie du Châtelet, Voltaire, ça fait partie des grands couples que l'on présente régulièrement, mais étonnamment ici on voit bien que c'est Voltaire qui a complètement effacé Émilie du Châtelet, alors que lui-même de son vivant a-t-il de cette démarche-là? Est-ce qu'il a voulu s'accaparer un petit peu tout ce qu'elle pouvait lui apporter?
Pas du tout. Il indique à plusieurs reprises, il y a une formule qu'on lit souvent, Minerve dictait, moi j'écrivais. Donc il indique à plusieurs reprises à quel point c'est une collaboration intellectuelle et scientifique extrêmement serrée. Il reconnaît à plusieurs reprises sa dette. Et plus que ça, parce que on pourrait dire aussi qu'il y a un certain nombre de textes. Alors, les éléments de philosophie de Newton, c'est explicite. Mais un autre texte, le traité de métaphysique, ça l'est moins. Un texte qui a été longtemps attribué à Voltaire et dont on sait aujourd'hui qu'il a été en réalité écrit à deux mains. Donc il y a au moins ces deux textes-là pour lesquels il y a un troisième auteur, c'est-à-dire qu'ils écrivent à deux et ça donne une écriture hybride spécifique qui interroge même la notion d'auteur. Donc c'est très intéressant que ce compagnonnage, il soit possible de le penser ni comme un Voltaire qui apprendrait à une marquise ignorante, selon un motif sur lequel on reviendra sans doute, ni comme une femme qui aurait été en réalité l'autrice de l'ombre, la réelle philosophe ou la réelle scientifique. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de montrer précisément qu'il y a cette collaboration entre eux qui propose une autre écriture.
Voilà, si elle a été invisibilisée, si elle est tombée par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Pour une fois, c'est déjà cela. Nous sommes aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec Émilie du Châtelet, la science à la vitesse des Lumières.
Nous sommes au château de Breteuil, où M. Henri-François de Breteuil, descendant de Mme du Châtelet, nous reçoit dans le cabinet même où cette jeune fille a reçu une éducation exceptionnelle, grâce à un père exceptionnel.
C'est un homme extrêmement intelligent, important, et surtout pour Émilie, il va être un père fantastique, parce que au lieu de la mettre au couvent, comme on le faisait pour les filles à l'époque, il va lui donner, pour chaque matière, des professeurs, physique, chimie, mathématiques, italien, latin, anglais, etc., etc. Et du coup, sa vocation de femme des sciences va être en quelque sorte favorisée dès son enfance par cette éducation que son père lui donne en la faisant travailler avec ses frères, donc avec les garçons, et à l'égal des hommes, puisque c'était son grand souci que les femmes soient, et elle avait raison d'ailleurs, à l'égal des hommes.
Histoire possible et impossible sur France Inter. Émilie du Châtelet est née en 1706. Ici, la figure de son père est mise en avant. Est-ce que c'est justifié? Pour expliquer comment une femme de son temps, je le dis, elle est née en 1706, devient une de ces grandes figures de la pensée. Son père est important, Anne-Lise Rey.
Oui, il est central parce qu'il choisit, comme l'extrait le rappelait, de lui donner une éducation à l'égal de celle des hommes. Et c'est effectivement ce qui va faire, enfin c'est un des éléments qui va faire la différence. Et alors qui va faire la différence, et puis peut-être que Susanna voudra prolonger ça, mais qui va faire la différence, néanmoins, elle est absolument consciente de cette inégalité d'éducation. Et il y a un texte qui est l'avant-propos de la traduction de la fable des abeilles de Mandeville, dans lequel précisément elle s'inscrit dans cette longue tradition de demande d'une éducation égale pour les hommes et les femmes. Et elle se demande pourquoi on n'a pas cette audace. Il peut y avoir des reines, mais on ne peut pas, trouver les moyens et les raisons de justifier une égalité dans l'éducation pour les femmes et les hommes. Et donc, elle s'en émeut.
Susanna Seguin.
Oui, sa démarche sera celle d'une femme qui a reçu une éducation qui la place en égale de ses semblables. Donc, elle ne se présentera jamais autrement que comme l'interlocutrice à la hauteur de n'importe quel savant, de n'importe quel philosophe. Elle tient tête, elle débat, elle discute. Elle prend sa place de femme actrice dans la vie intellectuelle de son temps. Et c'est pour cela que c'est dommage qu'elle ait été invisibilisée de la sorte, parce que sa figure est vraiment très visible. On la connaît, on débat avec elle d'égal à égal.
Avec cette idée de vulgariser, de vulgarisation. Bien sûr, c'est un anachronisme au XVIIIe siècle. Cette notion-là n'est pas aussi présente qu'au siècle suivant. Malgré tout, il s'opère un phénomène au XVIIIe siècle. On le sent bien. La science sort d'un monde qui semble assez étriqué. Vous nous avez dit en début d'émission que c'est jugé de manière facilement condescendante par l'aristocratie de s'intéresser aux sciences, par exemple. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle autour des sciences? Ça se diffuse dans la société. Alors, pas auprès de tout le monde, mais en tout cas, ça s'élargit un petit peu.
Cela s'élargit, et ce qui se produit au début du XVIIIe siècle, c'est l'apparition d'un nouvel espace de diffusion des savoirs. Il faut se dire que pour vulgariser, c'est-à-dire pour traduire la science qui serait complexe à un niveau que le plus grand nombre puisse la comprendre, il faut déjà que la science soit complexe, et deux, qu'il y ait un public qui s'y intéresse. Or, le public ne s'y intéresse pas. Donc, la première phase sera de créer cet espace dans lequel le public trouvera la science intéressante. Et ce travail revient essentiellement à un autre auteur qui s'appelle Fontenelle, qui écrit l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du genre, que sont les Entretiens sur la pluralité des mondes, justement, où on parle à une marquise. Mais derrière la marquise, ce sont toute la bonne société qui s'intéresse à la science, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de réduire la science à un langage simple, parce qu'on part du cartésianisme, et le cartésianisme, justement, revendique la simplicité et la clarté. Tout le monde peut lire Descartes. Mais il s'agit d'élever la science au rang des savoirs dignes de l'intérêt de la société. Et donc de lui donner les agréments d'un livret d'opéra, de la poésie pastorale, d'un roman, et montrer que penser, réfléchir, observer le monde, admirer les astres et découvrir la nature est tout aussi plaisant que assister à un spectacle de la cour.
Fontenelle, c'est une autre génération qu'Émilie du Châtelet. Hein. Il est né bien avant elle, c'est quoi, une cinquantaine d'années à peu près?
Il est né en 1657, il meurt en 1757. C'est 199 ans, 11 mois et quelques jours de vie.
D'accord, il a fait le siècle, Fontenelle. Et il a ce procédé, vous l'évoquiez, d'écriture particulier. Ce procédé où il s'adresse à une marquise. Donc là, c'est la démarche qui est vraiment intéressante. Plus que l'apport scientifique, d'ailleurs, c'est pas tellement un apport scientifique qui nous donne Fontenelle. C'est une possibilité d'y accéder.
Oui, c'est une possibilité d'y accéder et ça va construire presque un genre d'écriture. Il y a un texte qui est très connu dans la deuxième moitié des années 1730, c'est le newtonianisme pour les dames de d'Algarotti. C'est précisément, ça reprend le même dispositif d'un savant qui voudrait, en un sens, monnayer son savoir contre les charmes d'une marquise ou d'une femme qui serait désireuse d'apprendre. Et donc, sous ce dispositif galant, si on peut dire, sous ce dispositif galant, se jouent en réalité des modalités d'écriture différentes. On pourrait dire que pour Algarotti, qui a séjourné à Cirey, dont le texte a été traduit... qui a séjourné au château de Cirey, c'est-à-dire le château où se sont installés Émilie du Châtelet et Voltaire à partir de 1735, où ils ont travaillé, écrit, fait des expériences, mais aussi joué des pièces de théâtre, reçu des amis et des savants de l'époque. Au château de Cirey, où a séjourné Algarotti pendant quelques semaines, se passe toute cette vie scientifique, intellectuelle assez dense. Et ce texte, je crois, est important aussi pour comprendre ce genre d'écriture. Donc, il me semble que, bien sûr, il y a ce dispositif de relative simplification, mais je crois aussi qu'il y a un dispositif par lequel on cherche à rendre sensible la physique. L'argument est même explicite dans la préface de la traduction française du newtonianisme pour les dames. On cherche à rendre sensible la physique, c'est-à-dire à la faire comprendre par les sens et par les expériences, puisque les femmes seraient, soi-disant, sensibles à l'amour et aux preuves sensibles d'une intelligence du monde. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de comprendre ce texte-là, ces genres-là, aussi comme une modalité d'appropriation de la physique newtonienne ou cartésienne, puisque c'est ce jeu-là qui est en place. Faut-il défendre une physique cartésienne ou newtonienne ? Mais c'est une modalité d'appropriation qui passe par, finalement, des décisions méthodologiques. C'est-à-dire, c'est simplement à l'aune de l'expérience sensible qu'on pourra évaluer la pertinence d'une théorie scientifique. Et plutôt que d'en faire... Alors, je ne sais pas si le terme de vulgarisation est totalement adéquat ici, mais je trouve que c'est intéressant de penser qu'il ne s'agit pas forcément d'une simplification, mais qu'il s'agit d'une proposition épistémologique, méthodologique. La théorie physique ne sera jugée valable que si elle est fondée expérimentalement.
Susanna Seguin, dans ce qu'on entend ici comme démarche, on a toute la pertinence et on comprend la place d'Émilie du Châtelet dans cette histoire-là. Rendre la science sexy, on pourrait le dire autrement. Oui. Et les femmes jouent un rôle très important parce que elles peuvent être, comme dans le cas de Fontenelle, avec la marquise, la personne à qui sont destinés tous ces commentaires... Et puis, elles tiennent des salons. Et ça, c'est dans la réalité. Et ça, c'est pratique. Et ces salons jouent un grand rôle aussi dans la diffusion des savoirs.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec Annelise, une démarche essentiellement épistémologique. Dans le cas de Fontenelle, c'est apprendre au lecteur à se servir de son imagination comme d'un instrument, non seulement de divertissement, mais d'exploration des possibles du monde. Et pour Fontenelle, tout est possible dans le monde. Donc l'imagination est un instrument heuristique par lequel on peut s'approprier les savoirs du monde. Il s'adresse aux femmes, il s'adresse aussi, derrière la figure de la marquise, toute la société qui pourrait avoir envie justement de se laisser emporter par l'imagination. Et cet engouement que va provoquer... l'initiation que constitue le travail de Fontenelle se traduit par le développement dans les salons d'une curiosité de plus en plus marquée pour les démonstrations de physique, pour les fameuses nuits blanches de Madame de Lambert au château de Sceaux, au Parc de Sceaux, dans lesquelles on passe la nuit avec un télescope à regarder les planètes et les étoiles, et auxquelles participent essentiellement les femmes de la cour. Et donc, il y a un intérêt de plus en plus marqué pour un champ du savoir qui ne leur était pas adressé et qui, en principe, n'intéressait pas non plus l'univers féminin. Et donc, c'est pour cela que je parle plutôt au début de la création d'un espace dans lequel la science devient l'objet d'intérêt. Avant que de pouvoir la vulgariser, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui s'adresser. Et c'est ce qui se développe dans cette première moitié du XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'émerge aussi la figure d'Émilie du Châtelet.
Avec ce moment particulier qui est l'expérience dans le salon. Non, mais ces salons, ça doit être foisonnant. On les imagine à peine aujourd'hui et tenus surtout par des dames. C'est ici que nous voyons ce rôle féminin à l'intersection de ces différents savoirs. Parce que parler d'Émilie du Châtelet, c'est parler d'un personnage, mais qu'il faut inscrire dans un phénomène beaucoup plus vaste, celui des salons. On ne peut pas imaginer le monde des sciences au XVIIIe siècle sans parler des salons, Anne Liseret.
Oui, oui, mais peut-être que justement, on peut pas l'imaginer sans parler des salons, mais il faut peut-être ajouter à cette activité salonnière un travail d'écriture, un travail d'écriture, un travail de une présence lors d'expériences dans des cabinets de physique. Et donc, je pense que cette activité scientifique, ce qui est intéressant dans cette première moitié du XVIIIe siècle, c'est qu'elle est protéiforme. Bien sûr, il y a le salon, il y a des cabinets de physique, il y a un travail précis sur des textes de physique expérimentale qui viennent des Provinces Unies et auxquels Émilie du Châtelet a accès à partir de 1730. Mais la lecture du Journal des Savants et l'écriture d'articles dans le Journal des Savants, qui est l'organe officiel de l'Académie royale des sciences, et il faut rendre compte de cette multiplicité pour penser, je pense, l'activité scientifique de cette époque.
Oui, parce que c'est ça, activité vraiment foisonnante dans tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que l'on assiste justement à ce que nous évoquions en début d'émission, à l'autonomisation des différents champs scientifiques? Au début, c'est vrai qu'on disait philosophie, physique, mathématiques, géométrie, tout pouvait être un peu mélangé. Mais au XVIIIe siècle, on voit quand même apparaître des branches bien distinctes.
Oui, l'Académie des sciences se dote, elle a un premier organe qui est le Journal des Savants dont parle Anne-Lise. Elle se dote ensuite de son propre instrument de diffusion qui est l'histoire de l'Académie des sciences, à laquelle elle publie les travaux des savants, mais où il y a une grande introduction qui circule dans toute l'Europe et qui est reprise dans tous les journaux européens et dans lesquels sont diffusées les connaissances dans les différentes disciplines organisées comme telles. Et donc, on habitue le public à s'intéresser à des savoirs bien spécifiques que l'on peut suivre selon son plaisir, son intérêt divers.
Émilie du Châtelet, évidemment, connaît ses salons. Elle tient elle-même un salon. Comment ça se passe pour elle? Non, elle n'a pas de salon particulier, mais elle évolue dans ce monde-là. Oui. Comment rencontre-t-elle Voltaire? Est-ce qu'on peut dire que c'est la rencontre avec Voltaire qui va lui permettre par la suite de faire tout ce qu'elle a envie de faire et peut-être même de diffuser, de se mettre à écrire pour diffuser les savoirs?
Moi, je ne crois pas.
Elle l'aurait fait sans Voltaire.
Elle l'aurait fait sans Voltaire, je pense. Oui, oui. Ils se rencontrent dans ils fréquentent les mêmes milieux aristocratiques et intellectuels. Elle fréquente des salons, mais elle n'en tient pas, à ma connaissance.
Son père, je crois.
Son père tenait
et
un
donc
salon.
Son père reçoit Maupertuis,
reçoit les savants, reçoit Fontenelle, il reçoit les savants du temps, il reçoit Voltaire, que tout le monde recevait d'ailleurs. Donc c'est ainsi qu'ils se rencontrent. Mais je pense qu'elle était suffisamment déterminée à mener sa propre barque
pour écrire ces différents ouvrages avec ici des procédés que vous nous avez expliqués, mais tels que le faisait Fontenelle avec une marquise imaginaire. Émilie du Châtelet reprend cette idée-là pour diffuser ses institutions de physique.
L'étude de la physique paraît faite pour l'homme. Elle roule sur les choses qui nous environnent sans cesse et desquelles nos plaisirs et nos besoins dépendent. Je tâcherai dans cet ouvrage de mettre cette science à votre portée et de la dégager de cet art admirable qu'on nomme algèbre, lequel, séparant les choses des images, se dérobe au sens et ne parle qu'à l'entendement. Vous n'êtes pas encore à portée d'entendre cette langue, qui paraît plutôt celle des intelligences que des hommes. Elle est réservée pour faire l'étude des années de votre vie, qui suivront celles où vous êtes. Mais la vérité peut emprunter différentes formes, et je tâcherai de lui donner ici celle qui peut convenir à votre âge, et de ne vous parler que de choses qui peuvent se comprendre avec le seul secours de la géométrie commune que vous avez étudiée. Ne cessez jamais, mon fils, de cultiver cette science que vous avez apprise dès votre plus tendre jeunesse.
Prudence Castelot dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait cet extrait des institutions de physique d'Émilie du Châtelet. Nous sommes en 1740 et quand elle dit « mon fils », elle s'adresse à son fils, tout simplement, à Liseré.
Absolument, et je crois que cet avant-propos des institutions de physique rejoue le genre du manuel ou rejoue le genre qui a été institué par Fontenelle pour une bonne part et repris par Algarotti, mais le subvertit. C'est-à-dire qu'il me semble que là, on se trouve quand même devant une femme marquise qui est en train d'apprendre à un jeune homme ce qu'il doit savoir sur la science de son temps. Et il faut, je crois, pas être dupe de cette subversion. Il s'agit précisément d'inverser le stéréotype de genre et d'ouvrir à partir de là un espace dans lequel, si vous feuilletez les pages des institutions de physique, il n'y a rien de si simple. Vraiment pas, puisque c'est vraiment son maître ouvrage et c'est un texte dans lequel elle va élaborer une philosophie qui lui est propre, une philosophie originale, qui est loin d'être ce que on a longtemps indiqué à propos de ce texte, un manuel de physique qui présenterait dans sa première partie la métaphysique leibnizienne et dans sa seconde partie la physique newtonienne. Et dès qu'on ouvre le livre, cette partition ne tient pas.
Ça tient pas, et puis c'est surtout, ici je trouve ça vraiment très drôle, hein, que cette marquise parle à son fils en reprenant ce procédé où le scientifique Fontenelle parlait à une marquise.
Absolument.
Tout est inversé ici, et il ne faudrait pas croire, Susanna Seguin, qu'il s'agisse d'un ouvrage destiné au plus grand nombre. C'est pas la physique pour les nuls, c'est pas du tout cette démarche-là.
Non, ce n'est absolument pas une simplification du discours scientifique. Du discours physique, c'est l'élaboration d'une méthode, d'une physique, d'une philosophie propre à Émilie du Châtelet. Donc, le vulgarisateur, souvent, n'est pas producteur de savoir par lui-même. Il est intermédiaire du savoir que produisent les autres. Dans le cas d'Émilie du Châtelet, elle est physicienne, elle est philosophe. Donc, sa démarche, derrière son fils, bien sûr, il y a un public, hein, ce dispositif littéraire, je m'adresse à une personne en particulier, mais elle vise aussi, derrière cette image, ce destinataire semi-fictionnel, un public en horizon d'attente concret. Hein. Elle se place, elle a un ethos d'auteur, hein, qui s'adresse à la société de son temps, aux savants de son temps.
Et en faisant cela, elle participe au processus que vous nous avez expliqué, qui est de décloisonner le monde des sciences, qui n'est plus réservé qu'aux scientifiques pur jus. C'est ça, vraiment, qui est important avec ce que fait Émilie du Châtelet. On n'a pas besoin d'être son fils ou d'avoir besoin d'un manuel pour lire ses instructions de physique. Mais si on n'y connaît rien à rien au XVIIIe siècle et qu'on veut une porte d'entrée de compréhension, là, il y a un ouvrage qui est disponible. Il est très dur, il est très pointu. Ah, il est très pointu, hein.
Oui.
Vous avez souffert à le lire.
Il est difficile. Personnellement, en tant que littéraire, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore. C'est la dimension épistémologique qui peut m'intéresser. Ce n'est pas fait pour des ignorants comme moi.
il s'agit
de, elle le dit à la fin de l'avant-propos, il s'agit de rapprocher la métaphysique de notre vue.
Hein,
donc
ouais,
c'est ça. Donc il y a dans ce texte un travail, là encore, très très drôle en réalité, à partir des grands monuments d'histoire de la philosophie et de l'histoire des sciences. C'est-à-dire que elle pointe par exemple contre la méthode cartésienne elle-même, le critère de clarté et de distinction. Elle commence à élaborer cet édifice des institutions, c'est-à-dire du fondement de la physique, par les principes des choses, et Dieu apparaît au chapitre 2. Donc il y a une sorte de renversement permanent de ce que pourrait être un traité traditionnel. C'est pour ça que je dis que ça échappe véritablement au travail de simplification ou à la présentation des théories disponibles pour penser la nature, puisqu'il y a en permanence un travail de reformulation. Je donne un autre exemple sur la théorie de l'attraction, qui est le maître mot du newtonianisme, et une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que le XVIIIe siècle est newtonien? À quelles conditions? Comment peut-il être newtonien en France? Qui l'introduit? Est-ce que, effectivement, les institutions de physique participent à ce mouvement d'introduction et de présentation du texte de Newton en France? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, ok, si je puis dire, la théorie de l'attraction, on l'observe, on la constate, il y a des phénomènes d'attraction. Mais elle tranche dans un débat entre savants. C'est pas une propriété inhérente de la matière. Et je vais vous dire ce qu'on doit faire des phénomènes qu'on observe. On doit utiliser un critère d'évaluation de la pertinence de ces phénomènes. Et ce critère, où le trouve-t-elle? Dans le principe de raison suffisante de la métaphysique leibnizienne. Donc si un phénomène peut être expliqué, c'est à condition d'être évalué à l'aune d'un principe dont elle va par là même changer la fonction, puisqu'elle va en faire un principe méthodologique. Et donc là, vous voyez juste un petit exemple, un petit exemple du travail extrêmement ingénieux et inventif qu'elle propose, qui rend caduque une interprétation en termes de présentation simplifiée des théories en présence.
Voilà. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Susanna Seguin, vous êtes l'autrice de Science et Religion au XVIIIe siècle, le mythe du déluge universel. Alors là, c'est un déluge sur la manière de concevoir les sciences auparavant. Mais ce que nous entendons ici, c'est qu'il y a une vraie proposition d'Émilie du Châtelet. Et en cela, elle est scientifique, complètement scientifique. D'ailleurs, comment ça se passe avec les religions, etc. Comment elle est perçue? Parce que Dieu qui apparaît au chapitre 2, c'est vrai que c'est un peu tard. Hein.
Enfin, Émilie est surtout connue pour ses œuvres publiées. Elle est moins connue pour une œuvre qu'elle a menée dans le secret de son cabinet à Ciré, certainement en travaillant avec Voltaire, où on lisait la Bible tous les jours. Mais non pas en tant qu'acte pieux, mais en tant que démarche critique. Émilie du Châtelet est l'autrice d'un manuscrit qui fait 600 pages, dans lequel elle commente la Bible de la Genèse à l'Apocalypse de manière extrêmement critique, qui s'appelle les examens de la Bible, et où l'on constate que sa démarche philosophique est extrêmement irrévérencieuse à l'égard de celle de à la mesure de celle de Voltaire également, et où elle désacralise totalement le récit biblique et la religion chrétienne.
Et il s'en passe des choses à Ciré dans ce château très particulier, Anne Liseré.
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle commence à écrire ce texte enfin, un an après la deuxième édition des Institutions de physique. Et mon hypothèse, c'est qu'elle a forgé des outils d'analyse dans les Institutions de physique, qu'elle va mettre à l'épreuve dans les examens de la Bible pour interroger la pertinence de la description de la nature qui est faite dans la Bible. Donc il y a un travail épistémologique qui lui sert à mettre à la question, si je puis dire, le texte religieux. Donc c'est là encore, c'est alors ça s'inscrit dans un courant de pensée que Susanna connaît bien.
Oui, oui, bien sûr. C'est elle n'est pas la seule. Hein, son époque, c'est tout un courant souterrain de pensée philosophique qui se diffuse depuis le milieu du XVIIe siècle, hein, qui circule essentiellement sous forme manuscrite pour des raisons évidentes. On ne pouvait pas publier un texte qui est contraire au dogme officiel, et ce sont des textes extrêmement polémiques dans lesquels on on détruit l'institution politique et historique de l'Église, et dans laquelle on démontre l'absurdité de la métaphysique ou de la théologie chrétienne, et qui font circuler des idées essentiellement matérialistes et souvent athées. Hein, c'est dans ce courant-là que s'inscrit le texte d'Émile Duchâtelet, qui en connaissait quelques-uns grâce aussi à Voltaire. Hein. Voltaire est un possesseur et connaisseur de cette littérature. Et donc elle s'inscrit pleinement dans cette littérature. Et pendant longtemps, son nom a été aussi occulté. La rumeur courait que peut-être Émilie avait aidé Voltaire à faire cet écrit que plusieurs avaient vu. Mais la recherche contemporaine a montré que ce texte est absolument entièrement d'Émilie Duchâtelet.
Voilà, même si Voltaire était à ses côtés.
Il était à côté, ils ont dû en parler, ils ont dû beaucoup rire en se moquant de la Bible, mais c'est elle qui a écrit ce texte.
Et tout ça se passait à Cirey. Anne-Lise Rey, ce château de Cirey. Alors aujourd'hui, c'est Cirey-sur-Blaise, hein, ça se trouve en Haute-Marne. D'ailleurs, faut imaginer hein, ce couple, parce que c'est un couple, ils ne sont pas mariés, hein, Voltaire, Émilie Duchâtelet, qui s'adonnent chacun de son côté à la recherche. Comment ça se passait, la vie là-bas? C'est des discussions, on n'en a pas les traces, hein, c'est toujours dommage, l'oralité qui disparaît, mais ça devait être absolument sensationnel.
Grâce aux correspondances, on a quelques bribes de ce qui se passait, des savants qui viennent, de l'activité, de l'organisation même de la journée. Je parlais de pièces de théâtre qui jouaient le soir avec quelques amis dans un tout petit théâtre à Cirey. Effectivement, un travail d'écriture, ce cabinet de physique, une bibliothèque assez conséquente qui nous permet aujourd'hui de comprendre à quoi Émilie Duchâtelet avait accès. Et puis des visites de quelques semaines d'amis, de savants qui passent. Je pense que ça nous donne un petit aperçu effectivement d'une vie intellectuelle assez dense, mais une vie de plaisir à tous les sens du terme.
Ce n'est pas sinistre. Et puis, il y a toutes ces expériences menées par Émilie Duchâtelet dans le même temps. Elle a son laboratoire à Cirey.
Oui, il y a un cabinet de physique. Et puis, elle assiste aussi à des expériences. D'ailleurs, elle assiste aussi à des expériences en allant à l'extérieur du château, voir ce que font les ferronniers, en particulier dans les années 1736-1737, où elle rédige, dans le secret, une dissertation sur la nature et la propagation du feu. Une question a été mise au concours à l'Académie royale des sciences. Qu'est-ce que le feu? Comment se propage-t-il? Et un certain nombre de savants répondent à la question mise au concours. Pour une femme, il n'est pas possible de répondre à cette question. Donc elle envoie son essai anonymement. Voltaire travaillait de son côté. Et donc, c'est intéressant. Ça aussi. Alors, le texte n'est pas primé. C'est Léonard d'Euler qui a le prix. Enfin, il y a trois personnes qui reçoivent ce prix. Mais le plus connu est Léonard d'Euler. Mais le texte de Voltaire et celui d'Émilie Duchâtelet seront publiés dans les recueils des pièces de l'Académie des sciences. Et c'est la première fois qu'un texte de femme sera publié dans ces recueils. Donc ça, c'est important aussi. On se posait tout à l'heure la question de la reconnaissance, de sa place dans le monde savant. Ça commence presque par ça. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance qui vient d'une publication de l'Académie des sciences. Il y a d'autres formes de reconnaissance. Il y a le fait que ces institutions de physique sont immédiatement traduites en allemand et en italien, donc circulent dans l'Europe des Lumières très très rapidement, en 43 en fait, les publications en italien et en allemand, qu'elle est reçue à l'Académie de Bologne, où elle devient membre étrangère, je crois. Et puis, peut-être on en parlera tout à l'heure, qu'un certain nombre d'entrées de l'encyclopédie sont des extraits des institutions de physique.
Ah, c'est-à-dire que pour l'encyclopédie, celle de Diderot et d'Alembert, On reprend Émilie Duchâtelet. Ça permet d'ailleurs, tout ce que vous venez de nous dire, de replacer Émilie Duchâtelet dans son temps. On a évoqué cette occultation, invisibilisation d'Émilie Duchâtelet par la suite, mais de son vivant, ce n'était pas le cas. C'est quelqu'un qui est très reconnu. Oui.
C'est quelqu'un de reconnu, et il est curieux de voir que les règlements de l'Académie des sciences interdisaient aux femmes de participer au concours. Elles n'étaient pas admis que les femmes y participent. En revanche, quand Émilie du Châtelet envoie son texte de façon anonyme, tout le monde sait que c'est Émilie du Châtelet. Donc c'est la plus grande hypocrisie parce que on se félicite d'avoir un texte d'Émilie du Châtelet tout en occultant son nom parce que elle ne peut pas figurer. Et au moment où elle est publiée avec les autres œuvres qui ne sont pas primées mais qui sont quand même reconnues par leur valeur scientifique, en quelque sorte, on revendique le fait d'avoir publié l'œuvre d'une grande dame très connue par ses travaux et on donne le nom d'Émilie du Châtelet. Mais on ne le met pas sur la couverture, sous le titre de l'ouvrage.
Ah oui.
C'est toute l'ambiguïté de cette période qui se joue, où on voit effectivement la reconnaissance d'Émilie du Châtelet et en même temps, ces règles sociales qui empêchent encore de lui donner sa place.
Mais ça, c'est en 39. Mais en 44, il y a une édition qui regroupe sa dissertation, les réponses d'une dispute qu'elle a rendue publique avec Dortus de Méran, qui est à ce moment-là secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences. Et donc là, c'est sous son nom que ça paraît. Et la dispute dit aussi quelque chose de la place qu'Émilie du Châtelet a à cette époque, puisque à l'issue de la publication des Institutions de physique, première édition 1740, texte qui défend le principe de conservation des forces vives leibnizien, il y a une grande dispute qui s'appelle la querelle des forces vives qui commence en 1686 par la publication dans les Acta Eruditorum d'un texte qui s'appelle Brève démonstration de l'erreur mémorable de Descartes. C'est un texte publié par Leibniz qui lance la querelle et qui va durer, je sais pas, au moins 60 ans. Et cette querelle, elle suppose de se demander qu'est-ce qui se conserve dans l'univers dans le cas de choc de corps. Pour Descartes, c'est la quantité de mouvement. Pour Leibniz, c'est la quantité de force vive. Donc cette querelle ne cesse d'avoir des protagonistes qui évoluent, y compris après la mort de Leibniz. Émilie du Châtelet hérite de cette querelle et, évidemment, comme toujours, essaye d'apporter sa propre pierre en proposant, au chapitre 21 des Institutions de physique, des démonstrations expérimentales du principe de conservation des forces vives. Ce qui n'avait pas été fait par Leibniz, parce que c'était pas du tout son projet dans la Brevis Demonstratio. Mais donc, à l'issue de ça, Dortus de Méran, qui est cartésien, écrit une lettre de protestation en indiquant qu'il n'est pas du tout convaincu par la démonstration qu'Émilie du Châtelet livre, parce que lui-même avait écrit une dissertation en 1728 qui défendait la position cartésienne. Bon, bref, tout ça pour vous dire que elle choisit, dans la deuxième édition des Institutions de physique, d'intégrer la correspondance qu'elle avait avec Dortus de Méran dans le texte lui-même, dans l'édition même du texte. Ce qui indique sa place dans le monde savant. Elle peut se permettre de publier un texte dans lequel elle se moque ouvertement des arguments que le plus grand personnage, disons, du monde savant académique lui a opposé, à savoir Dortus de Méran, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences. Ça dit quelque chose. Ça, plus le fait qu'elle ait été publiée, la première à avoir été publiée, reconnue dans les académies, immédiatement traduite, présente dans beaucoup d'entrées d'épistémologie, si je puis dire, de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, citée par Emmanuel Kant dans ses textes sur les forces vives, toujours. Tout ça dit quelque chose de cette postérité qui nous rend très, très étonnée de voir qu'elle a disparu de l'histoire de la philosophie et de l'histoire des sciences au 19e et au 20e siècle.
Suzanne Asselin, je suis désolée, je remets Voltaire ici dans la conversation. Mais enfin, Voltaire, c'est une quiche à côté d'Émilie du Châtelet dès qu'il s'agit des sciences.
Ah bah oui, bien sûr, Voltaire n'est pas du tout un homme de science. Il s'y intéresse un peu, il fait aussi quelques expérimentations, il essaye de faire pousser des coquilles pour voir si l'origine de la vie peut venir. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas du tout son domaine. Voltaire est un historien, c'est un philosophe, mais ce n'est pas du tout un homme de science. Les mathématiques, ce n'est pas son intérêt. Il ne comprend pas bien les mathématiques, à mon avis. Donc, il s'arrête un peu à la physique newtonienne, mais il ne peut pas suivre le train d'Émilie du Châtelet sur ces questions-là. Absolument pas.
Donc au château de Cirey, le soir, quand tous les deux se retrouvent, il doit avoir du mal à suivre en fait tout ce qu'elle peut lui apporter. Mais c'est d'ailleurs toujours très étonnant, hein, parce que ça permet de replacer Émilie du Châtelet en lien avec Voltaire, et puis peut-être faudrait le faire en lien avec son temps. Parce que qu'en est-il des femmes dans ce monde de la science au XVIIIe siècle? Émilie du Châtelet est-elle une exception? Alors, on l'entend, elle est exceptionnelle par ses capacités intellectuelles, mais est-ce qu'on va trouver d'autres figures de femmes qui, peut-être avec moins d'ampleur, arrivent à prendre la parole dans le monde scientifique?
Pas en France.
Je dirais pas,
pas en France.
Pas tant que ça.
Il y a quelques figures féminines, Bassi en Italie, Laura Bassi, mais en France, c'est l'unique et la seule.
Alors, on dit en France, mais nous sommes dans ce monde des sciences qui n'a pas vraiment de frontières, cette immense république d'Aide. Donc, c'est ce que vous disiez, Émilie du Châtelet échange avec les savants de son temps un peu partout en Europe. Hein.
Absolument, oui, oui. Sa correspondance indique bien cela. Et d'ailleurs, Euler, dont je parlais tout à l'heure, qui a obtenu le prix lors du concours sur la nature et la propagation du feu, lui écrit en lui disant qu'il n'a jamais trouvé quelque chose d'aussi clair sur le statut des hypothèses. Il faut dire un mot de ça. C'est-à-dire que si on veut rendre compte, disons, d'un des clivages importants dans la philosophie naturelle du XVIIIe siècle, il y a une distinction entre des cartésiens qui voudraient fonder le discours sur la nature sur des principes métaphysiques, si on veut vraiment procéder à gros traits, et puis des newtoniens qui considèrent que c'est la traduction mathématique de régularité phénoménale obtenue grâce à des expériences et des observations qui doit désormais être le nouveau visage de la science. Et ce nouveau visage, il a, par simplification, été compris dans un slogan qui est « hypothèses non fingo », « je n'imagine pas d'hypothèse ». Dans ce contexte-là, évidemment, la question est de savoir si on fait de la science avec des hypothèses ou pas. Est-ce qu'on peut encore donner droit de cité aux hypothèses quand on élabore un discours sur la nature, quand on propose un savoir sur la nature? C'est évidemment pas, en réalité, le texte newtonien. C'est une transformation, une rigidification, un appauvrissement. La construction, d'ailleurs, d'une orthodoxie, pour une part par Samuel Clarke, de ce qu'est la science newtonienne. Mais c'est particulièrement intéressant que le chapitre 4 des institutions de physique, qui a pour titre « Des hypothèses », soit repris in extenso dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, à l'entrée « Hypothèses », cité hein, avec la source « Institution de physique », voire « Châtelet ». Et donc dans ce jeu-là, là encore, elle n'est pas en train de prendre position pour l'un contre l'autre. Elle explique que bien sûr, idéalement, on devrait se passer des hypothèses, mais il se trouve que on n'a pas accès aux éléments qui nous permettraient de nous en passer. Et donc, pour cette raison-là, il faut bien en admettre pour faire de la science.
Anne-Lise Rey, je sens qu'Émilie du Châtelet a une belle place dans votre réflexion sur les certitudes des Lumières, parce qu'elle réfléchit aussi à ce qu'est la science.
Absolument, et en particulier sur ce point, je trouve que ce qui est très intéressant dans les institutions de physique, c'est qu'elle propose de ne pas choisir entre une certitude mathématique newtonienne, une certitude métaphysique, disons cartésienne, mais qu'elle interroge profondément ce que serait une définition du savoir, une conception du savoir qui intégrerait l'incertitude comme une de ses dimensions constitutives. De telle sorte que finalement ce qu'elle fait là, c'est qu'elle propose un geste au cœur duquel la physique doit être articulée à une anthropologie, à une réflexion anthropologique. Que suis-je comme sujet pensant, comme sujet connaissant? Je suis un sujet qui peut être incertain. Et cette incertitude, elle est en quelque sorte consubstantielle d'une nouvelle définition du savoir. D'une nouvelle définition du savoir qui est, à mon avis, très présente, très, très importante au XVIIIe siècle et qui suppose pas un adieu à la raison, mais qui suppose une autre conception de la raison que celle qu'on a parfois identifiée aux Lumières. Ce n'est pas une raison conquérante, orgueilleuse, hégémonique. C'est une raison qui doute, Et c'est une raison qui essaye, à partir de ses propres ressources, y compris le guide que constitue l'expérience, par ses propres ressources, d'élaborer un autre modèle de scientificité.
Susanna Seguin, c'est vraiment ça, ce 18e siècle aussi. Hein. C'est un 18e siècle dont nous parlons avec souvent un mot lumière, avec beaucoup de difficultés pour le définir, mais ce sont ces processus-là qui sont, avant la Révolution française, la véritable révolution.
Oui, absolument, et c'est un phénomène qui se construit dans le temps. On a l'habitude d'identifier par la simplification des manuels d'histoire littéraire le grand moment des Lumières au milieu du siècle. Mais en fait, pour en arriver à ces grandes œuvres que sont l'encyclopédie, les grands textes Voltaire, de Buffon, de Montesquieu, il y a tout un processus qui s'est fait auparavant, peut-être plus discrètement, dans l'ombre souvent, mais qui... réfléchit exactement dans cette dimension que présente Anne-Lise, d'une raison qui n'est pas toujours triomphante, mais qui est ramenée à une forme d'interrogation sur les théories mêmes de la connaissance. Mais à partir de quoi et en fonction de quoi peut-on connaître le monde ? Quelles sont les limitations et comment faire avec ces limitations-là ? Et cette réflexion apparaît déjà dans la première moitié du XVIIIe siècle, ce qui nous fait constamment, nous autres, nous poser la question du véritable début de ces lumières que l'on identifie si facilement à quelques noms d'auteurs, mais qui apparaissent aussi dans les interrogations de tous ces auteurs parfois de l'ombre.
Redéfinir la science, redéfinir le savoir, mais qu'en est-il du bonheur ?
Il est certain que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux et bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire. Et quand par hasard, il s'en trouve quelqu'une née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par cet état.
Prudence Castelot qui nous lisait cet extrait du discours sur le bonheur d'Émilie du Châtelet. Nous étions en 1746 et dans le cours de l'histoire sur France Culture. 1746, nous sommes 3 ans avant sa disparition. Émilie du Châtelet est décédée à seulement 42 ans. Très fort ce discours sur le bonheur parce que c'est toute la question aussi de sa pensée sur la société, sur la vie. Bon, ce qu'on entend sur la place des femmes dans la société, c'est extrêmement clair dans sa tête. Hein, et elle est ici un symbole très fort pour montrer par l'opposition, par la négative, ce qu'était la place des femmes. Elle est une exception réellement, hein, mais quelle exception !
Absolument, oui. Elle, en un sens, sa présence conforte les valeurs de l'Ancien Régime. C'est-à-dire, elle fait figure d'exception, mais ça ne remet pas en cause, finalement, un partage dans lequel, et c'est ce qu'elle évoque là, et ce qu'elle évoque aussi dans l'avant-propos de la traductrice quand elle traduit la fable des abeilles de Mandeville, avant-propos qu'on considère comme son manifeste féministe. Hein. C'est précisément ce qu'elle pointe. C'est-à-dire, elle a cette... c'est pas une chance, elle a pris sa place dans l'espace savant, mais elle sait très bien que c'est une exception par rapport au sort qui est réservé aux femmes, et donc elle sait aussi qu'il y a cette longue lutte pour l'égalité dans l'éducation, cette longue lutte pour l'accès à une même éducation pour les hommes et les femmes, et c'est effectivement un des ressorts de ce texte, oui.
Et puis tout est politique hein, dans une existence comme celle d'Émilie du Châtelet, parce que ne serait-ce que prendre la parole femme dans ce monde-là, c'est politique. Mais est-ce qu'il y a une pensée politique verbalisée qui accompagne tout ce qu'on va trouver dans les Lumières, ces réflexions sur les constitutions, etc.
Non. Il n'y a pas de réflexion théorique sur ces questions-là. Je pense que c'est surtout une pensée en action, Émilie du Châtelet. Elle prend sa position. Elle sait même que sa situation est tellement privilégiée qu'elle n'est pas accessible à toutes les femmes. Donc elle ne cherche pas à en faire un étendard à imposer pour toutes les femmes. Sa propre fille ne reçoit pas la même éducation qu'elle a eue. Elle sait que sa situation est privilégiée de tous les points de vue.
socialement, économiquement et même dans sa vie privée, puisque elle continue à être mariée avec Monsieur du Châtelet qui part faire la guerre, tout en habitant avec Voltaire et en entretenant des relations sentimentales autres avec d'autres savants de son temps. Elle avait un cœur très sensible, Émilie, elle tombait amoureuse très facilement. Elle avait de grands chagrins d'amour. Donc c'est une femme consciente de l'exceptionnalité de tous les points de vue hein, de sa vie. Donc elle ne cherche pas non plus à en faire un étendard, un combat politique dans la société de son temps, mais elle est consciente et elle met au clair la difficulté et l'entrave que constitue l'accès à l'éducation pour les femmes. C'est le premier écueil qu'elle constate et la première injustice parce que l'éducation est non seulement une porte d'émancipation, si émancipation il y a dans la société d'Ancien Régime, mais une sorte de consolation pour les femmes de son temps. La consolation n'est ni dans l'amour, ni dans la religion, elle est dans le savoir. Et c'est cette impossibilité qu'ont les femmes d'accéder au savoir qui est sa première revendication féministe.
Le phare du siècle des Lumières, c'est l'encyclopédie. Nous l'avons souvent cité, mais l'encyclopédie paraît après la mort d'Émilie du Châtelet. Et vous nous avez dit qu'elle est beaucoup citée dedans, notamment ces institutions de physique. La démarche de Diderot et d'Alembert en faisant l'encyclopédie, c'est un peu cette longue réflexion-là que nous évoquons ici. Alors, on n'a peut-être pas utilisé le mot vulgariser parce qu'on a dit qu'il est complexe d'utilisation pour le XVIIIe siècle. Mais cette démarche-là, c'est la même que celle d'Émilie du Châtelet. C'est la science réfléchie et puis rendue accessible, peut-être pas au plus grand nombre, mais en tout cas au-delà du monde des scientifiques.
Oui, l'encyclopédie crée vraiment, explose cet espace de communication du savoir. C'est vraiment l'achèvement, le parachèvement de ce processus initié par Fontenelle, montrer que la science est intéressante. L'encyclopédie arrive quand la science est intéressante. Ce qu'elle fait, c'est que l'encyclopédie élargit les horizons de lecture, parce qu'elle devient intéressante, non seulement par ses principes, par ses théories, elle devient intéressante par son histoire, elle devient intéressante par les métiers et par les techniques qui ne s'adressent plus seulement à une aristocratie curieuse, mais à une bourgeoisie productive, et partout en Europe. Et donc, le public que vise l'encyclopédie n'est plus la petite société aristocratique qui méprise les savants, mais l'Europe qui peut lire et qui est capable de produire et de changer cette société qui est en train d'évoluer à grands pas.
Faut-il lire Émilie du Châtelet, Anne-Lise Rey? C'est dur à lire, hein, Émilie du Châtelet, mais il y a ces textes quand même qui sont très forts. Non, je pensais aux instructions de physique, ça a l'air d'être ardu. Mais on peut les lire.
Non, mais c'est...
Oui, il y a des choses faciles à lire.
Bien sûr qu'on peut les lire, et puis... Comme le discours de métaphysique de Leibniz peut être considéré comme difficile à lire, mais c'est comme un grand texte de philosophie et de science, c'est-à-dire qu'il y a toujours des entrées dans un texte, on se saisit de certaines choses, certaines autres nous échappent. Donc c'est un texte à part entière effectivement, mais on pourrait dire que l'encyclopédie permet de vulgariser Émilie du Châtelet, en un sens, en introduisant une quinzaine d'entrées des références à Émilie du Châtelet, ça la fait connaître pour le plus grand nombre.
Ça la rend accessible.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour cette conclusion. Et puis, s'il faut lire, il y a qu'à lire vos ouvrages. Que ce soit Les Certitudes des Lumières qu'on attend, Anne-Lise Rey et Susanna Seguin, Sciences et Religions au XVIIIe siècle. Merci vraiment à toutes les deux de nous avoir présenté Émilie du Châtelet et surtout aussi cet environnement du XVIIIe siècle. Prochain épisode dans le cours de l'histoire. Nous allons nous intéresser à l'école d'Augustine Fouillé, le tour de la France par deux enfants.
Le Tour de la France par deux enfants, c'est un livre qui a enchanté nos parents quand ils étaient enfants, et avant eux, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et quand ces arrière-grands-parents étaient enfants, soyez sûrs que leurs parents et leurs grands-parents s'arrangeaient aussi pour lire en cachette de leurs enfants le Tour de la France par deux enfants. Si bien qu'on ne compte plus les générations qui ont ri, frémi et pleuré aux aventures d'André et de Julien depuis 80 ans.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bou avec à la technique Olivier Arnay, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Maël-Vincent Randonnier et Mayoué Nguizhou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.